Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble pendant une heure pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs avec nos deux invités du jour. Romane Juillet, d'abord de l'association Couleurs d'Avenir. Elle nous parlera du rallye Intersquare Citoyen que son association organise à Trappes le mercredi 30 septembre prochain de 14h à 18h. Nous recevrons également Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse, avec qui nous parlerons du forum Sans Solution à la rentrée, un forum à destination des 16-30 ans en recherche de formation, d'alternance, d'emploi et d'autres choses encore. C'est le 30 septembre également à Coubertin, donc gymnase Coubertin, à Motigny-le-Bretonneux, de 14h à 18h. Les chroniques de Marmite fait son actu sont au rendez-vous. Gaël Pinot nous parlera de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel. La minute conso de Pierre Joannès est à 17h45. Pierre nous parlera des arnaques. Elles sont nombreuses, les arnaques liées au Covid. Le flash d'actu local à 17h30 avec un focus sur l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage Covid à Trappes, un centre qui est ouvert depuis lundi. On écoute un morceau de musique, on revient juste après pour parler cinéma avec Gaël. À tout de suite.
Celle-là c'est pour les mamas, pour les mamas Africa. Viens chez moi, je vais te montrer tout ce qu'il y a dans notre contrée. Du Bantou jusqu'au Bambara, du Swahili au Bassa. À Dakar c'est ma Feyassa, au Camer poulet DG33. À Bambol au Nokmassé, à Bambol au Nokmassé. Y'a les femmes et leur tissage, toujours la flamme de métissage. Baby knows me querré malerme, malerme. Weao, baby knows me querré malerme, malerme. Imagine les percussions de Salif Keita, Salif Keita, avec l'élocution du grand Ikenja. Le wax et les pines se mêlent dans la danse. Odeur et saveur te mettent en transe. Vos doux gris-gris vont te faire danser. Le pili-pili pour ne pas te poser. Pour mes bras, la famille, je vous ai pas remercié. Le revoir m'égratigne, mais pour mieux se retrouver. Puis les enfants courent de partout. Et ouais, chez nous c'est pareil. Weao, baby nous me querré mal aimé. Mal aimé. Weao, baby nous me querré mal aimé. Mal aimé. Weao, baby nous me querré mal aimé. Mal aimé. Weao, baby nous me querré mal aimé. Mal aimé.
Laisse-moi te conter la grandeur de nos terres. L'amour, la dignité dans le cœur de nos mères. La royauté parée d'une belle ébène. Avant la pauvreté, les fers et les coups de fouet. Là où bravoure et des bruits se mêlent. Où les ancêtres soufflent sous chaque semelle. Où l'espoir en chacun sommeille. Sagesse de nos vieillards aux mille proverbes. Allégresse dans les âmes défiant mille problèmes. Sourire comme soleil éclaire le ciel. Éclat de couleur, mélodie de mille poèmes. Artisan de génie, art ancestraux béni. De l'empire mandin au plateau d'Abyssinie. Le temps prend le temps pour qui sait le prendre. Écoute les rires d'enfants pour mieux le comprendre. La jeunesse s'éveille, l'horizon dans la peau, Mama Africa se célèbre pour embrasser le monde.
Mama Africa se célèbre pour embrasser le monde.
Weao, baby nous me querré mal aimé, mal aimé. Weao, baby nous me querré mal aimé, mal aimé. Weao.
Scal sur les ondes de Marmite FM 88.4, Scal featuring l'unique Griot avec le titre Ngena O. Allez, vous écoutez Marmite fait son actu comme tous les mercredis à cette heure-ci de 17h à 18h. Tout de suite, on parle cinéma avec Gaëlle.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle.
Bonjour Nourandine, bonjour à tout le monde. Alors cette semaine au Grenier à sel, nous avons un petit événement, une avant-première. C'est un nouveau film d'animation de Johan Sfar. Johan Sfar, c'est un auteur de BD qui a précédemment fait Le Chat du Rabbin et il l'a adapté aussi au cinéma. Et là, il arrive avec une autre BD à lui qu'il adapte, qui s'appelle Petit Vampire. C'est plutôt prévu pour des enfants. Ça peut être vu de 7 ans jusqu'à l'âge adulte, hein, parce que je vous conseille vraiment de le voir. Moi, j'adore ça. Donc Petit Vampire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est orphelin et élevé par ses grands-parents. Et il rencontre un jeune vampire. Un jeune vampire qui est enfermé chez lui, ça fait 300 ans qu'il a 10 ans. Il n'en peut plus de regarder des films avec son ciné-club, avec ses copains de sa maison, avec sa bande de monstres copains. Il a envie de sortir et c'est là qu'il rencontre ce jeune garçon. Et Michel, et ils vont. Il a envie d'aller à l'école, il a envie d'avoir une vie normale. C'est une histoire vraiment touchante. Le petit fantôme qui découvre la vie extérieure. Ils sont assez foufous, assez fantaisistes. Et c'est donc une super histoire, super animation aussi, très joli dessin. Petit Vampire de Johan Sfar. Donc c'est une avant-première, puisque le film sortira pour la Toussaint. Et donc là, nous l'aurons ce dimanche, 27 septembre, à 17h30. Vous pouvez réserver vos places sur notre site et je vous retournerai toutes les informations tout à l'heure. Sur notre site, nous avons aussi un cahier d'activité que vous pouvez télécharger pour préparer la séance à la maison ou pour un retour à la maison avec les enfants. Donc, Petit Vampire, dimanche 27 septembre à 17h30. Les autres films de la semaine, nous avons J'irai mourir dans les Carpates qui continue. Le film de Antoine de Maxini qui continue donc sa deuxième semaine. Nous proposons aussi Police, un drame. C'est un drame de Anne Fontaine dans lequel on retrouve trois acteurs au meilleur de leur forme, puisqu'on a Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. L'histoire est assez assez humaniste puisque c'est trois flics qui doivent reconduire un gars à la frontière, un migrant, et ils comprennent bien que il leur fait bien comprendre que ça va pas très bien se passer pour lui quand s'il retourne dans son pays. Et donc il y a un vrai cas de conscience entre ces trois policiers. Et donc c'est vraiment un grand film porté par des grands acteurs, ça s'appelle Police. Nous avons aussi Énorme, c'est une comédie documentaire réalisée par Sophie Le Tourneur, dans laquelle on retrouve Marina Foïs et Jonathan Cohen. Dans ce film, Jonathan Cohen est le mari de Marina Foïs, et elle c'est une grande pianiste. Lui, il est son garde du corps, son manager, il organise toute sa tournée, etc. Il parle à sa place, il fait tout, il fait tout pour elle. Et un jour, dans leur vie, ils n'ont pas la place pour avoir des enfants. Ils ont une vie internationale, des grands concerts de piano. Et donc un jour, le monsieur Jonathan Cohen a envie d'avoir un bébé et il subtilise la pilule de sa femme. Et donc elle tombe enceinte. Sans le savoir. Donc la première partie du film, c'est comme ça. C'est cette histoire-là qui est les réactions de chacun avec quelques scènes comiques. Et la suite se passe plutôt dans la grossesse, les maternités. Et là, on passe dans une partie plutôt documentaire, puisque les rôles sont des sages-femmes, des médecins, des pompiers, sont joués par des amateurs qui sont réellement des sages-femmes, des médecins et des pompiers. Et on est dans notre deuxième partie du film, on est vraiment à l'intérieur d'une maternité et donc c'est très bien filmé, en tout cas vous avez le bébé, c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins comique que le début du film. Et pour finir, nous avons les nouvelles aventures de Rita et Machin, qui est un film d'animation que l'on conseille à partir de 4 ans. Il y avait déjà eu les aventures de Rita et Machin, mais bon, c'est là les nouvelles aventures avec Rita, une petite fille énergique et espiègle, et son chien farceur qui s'appelle Machin. Nous vous conseillons ces films, on l'a pour 2 semaines, pour une première sortie au cinéma, pour une rentrée au cinéma pour les petits enfants. C'est vraiment très beau et très magique. Voilà les films de la semaine. Donc, pour réserver les séances, pour réserver l'avant-première de dimanche 27, Petit Vampire, tout ça, c'est sur notre site internet, cinemagrenierhassel.com. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.
Merci beaucoup Gaël, 17h, passé de 11 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu, et tout de suite, on reçoit notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Laurence Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du centre départemental Yvelines Information Jeunesse. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un forum qui aura lieu le 30 septembre prochain, de 14h à 18h, c'est au gymnase Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. 100 solutions à la rentrée, 100 avec le chiffre, hein, c'est le chiffre 100.
Exactement, c'est plus positif.
C'est plus positif, voilà, que 100, voilà, si vous n'avez pas de solution, même s'il y a un petit jeu de mots, mais on va le comprendre au fur et à mesure de l'interview. Voilà, donc ce forum, c'est l'occasion pour les 16-30 ans d'être à la rencontre de formations, de stages, d'alternance, de missions de volontariat, de plusieurs choses. Hein, vous allez nous détailler ça dans quelques instants. Et pour donner un petit coup de pouce à cette jeunesse saint-quentinoise. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont jamais entendu parler d'Yvelines Information Jeunesse, nous présenter votre structure ?
Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Yvelines Information Jeunesse appartient à un réseau national.
Oui.
Nous, en tant que centre départemental, on coordonne 28 structures information jeunesse sur le territoire des Yvelines. Donc pour les jeunes, l'intérêt, c'est qu'il y ait des structures de proximité. C'est un label d'État, donc avec une garantie hein, en termes de formation, de professionnalisation.
Mmh.
Et donc ce réseau de professionnels accueille et informe les jeunes sur tous les sujets de leur vie quotidienne. Donc il y a bien sûr l'information, mais aussi éventuellement de passer le relais auprès des acteurs locaux selon la question et les besoins du jeune. Mmh.
Ben justement, parlez-nous de ce forum. Alors, 100 solutions à la rentrée, il y a plus de 40 partenaires qui seront présents. Hein. C'est un événement qui se prépare depuis plusieurs semaines maintenant. Parlez-nous un peu de ce forum et de l'objectif de ce forum.
Bah, c'est vrai qu'on essaie de mutualiser sur le bassin, alors pas que les Saint-Quentinois, je me permets juste, effectivement c'est avec notre réseau, donc comité d'agglo de Saint-Quentin en Yvelines, mais également le réseau information jeunesse de Versailles Grand Parc, et même Rambouillet qui s'est greffé et qui nous accompagne. Bah, l'intérêt c'est de tous ensemble pouvoir préparer déjà depuis quelques mois cet événement d'ampleur qui permet aux jeunes sans solution à la rentrée de trouver des offres concrètement et de rencontrer directement les structures qui propose ses offres. Donc notre réseau, effectivement, sur les 28, là, il y en a à peu près plus de 10 hein, qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de cet événement,
oui.
Plus particulièrement Montigny-le-Bretonneux, qui est la ville des informations jeunesse, mais c'est aussi la ville qui nous accueille donc à Montigny-le-Bretonneux le 30 et qui met à disposition les locaux.
Oui.
Donc ça, c'est important. Et puis, au-delà, on a la participation des villes de Bois d'Arcy, Les Clayes-sous-Bois, Élancourt, Fontenelle-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Maurepas, Trappes, Vélizy-Villacoublay et l'association donc Rambouillet l'usine à chapeau qui est labellisée aussi Information Jeunesse.
Mmh.
Donc c'est tous ensemble qu'on a préparé et qu'on a prospecté, puisque pour avoir des offres, effectivement, hein, l'idée c'est pas que de l'information, puisque l'information on le fait toute l'année. L'idée c'est aussi d'avoir des partenaires, des offres et des partenaires, puisque au-delà des partenaires qui seront présents, on aura en termes de conseils et d'accompagnement, on aura un conseiller emploi CCAS de Montigny. Ouais. On aura la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi la mission intercommunale de Versailles, la mission locale de Versailles,
ouais.
Pôle emploi de Guyancourt, Saint-Quentin en Yvelines agglomération, Activity, la Cité des métiers et le réseau Information Jeunesse.
Mmh. Alors, justement, Laurence Cousin, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu voilà, l'organisation hein, sur place, comment va être découpé en quelque sorte ce forum? Il y aura plusieurs axes, hein, plusieurs, voilà, selon ce que les jeunes chercheront.
Oui, tout à fait. Donc, en ce début d'année scolaire, il y a trois axes avec donc des partenaires différents selon ces trois axes. Donc, la première thématique, et là, on a beaucoup de d'écoles, c'est tout ce qui concerne la formation et notamment les formations en alternance.
Oui.
Ah, donc là, il y aura vraiment beaucoup de partenaires. Bien sûr, pour les CFA, pour les écoles en alternance, l'idée, c'est qu'ils aient des employeurs qui puissent aussi aider et accompagner ces jeunes dans la quête de l'employeur, parce qu'on sait que c'est souvent, ça peut être un frein à l'entrée en formation en alternance. Donc ça, c'est le premier axe majeur. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne l'emploi et le job, donc soit un job étudiant, soit un premier emploi pour les jeunes.
Oui.
Et le troisième axe, et non des moindres, c'est tous les dispositifs d'engagement, donc bénévolat, volontariat, et notamment un focus sur le service civique. Donc ces offres seront aussi en France et en Europe et à l'international.
Et puis
nous avons
pas...
un label Eurodesk qui nous permet effectivement d'informer les jeunes sur tous les dispositifs qui peuvent les concerner en termes de mobilité, qu'il s'agisse d'un stage, des études, d'un emploi en Europe et à l'international.
Alors ce qui est intéressant pour les 16-30 ans qui nous écoutent là, c'est qu'ils peuvent venir avec leur CV, leur lettre de motivation directement se présenter, et puis là c'est vraiment de la discussion, c'est de l'échange directement avec les partenaires et qu'ils peuvent repartir avec des choses concrètes.
Tout à fait, exactement. Oui, complètement. Il y aura, c'est vrai, un pôle CV lettre de motivation. Bah, l'idée, c'est bien sûr que s'ils ont déjà leur CV, ils puissent le présenter directement aux partenaires. Mais s'ils ont besoin de conseils, on est là aussi pour les accompagner, bien sûr. Oui, oui. Et puis après, l'idée, c'est de prendre des contacts et de rester en contact pour avoir un accompagnement si nécessaire. Mmh. Parce que c'est vrai qu'au-delà de la première demande du jeune, et on le voit déjà dans nos structures, c'est pouvoir de décrypter d'autres problématiques où quelquefois la première demande n'est pas forcément la bonne. Et on voit que peut-être qu'il y a à réfléchir sur le projet professionnel. Enfin, on le voit, hein, voilà, c'est il me faut juste un employeur. Et finalement, en discutant, on s'aperçoit que peut-être le projet est peut-être pas complètement validé. Donc voilà, donc nous, on est là pour ça toute l'année, j'allais dire. Mais là, c'est vrai que... En début d'année comme ça scolaire, effectivement, là, il y a des timings à respecter et il y a des offres. Donc après, l'idée, c'est que ça matche. Et rien ne vaut un dating. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a l'habitude de le faire, notamment sur les forums job d'été.
Oui.
C'est-à-dire vraiment la rencontre. La rencontre entre les propositions, les offres qui vont être là hein, en nombre. Et puis les jeunes eux-mêmes. Ça, c'est super, c'est vraiment très, très important.
Un petit mot peut-être, Laurence Cousin, sur le protocole sanitaire, hein, parce que voilà, on est toujours en zone de pandémie, en zone rouge hein, même dans les Yvelines. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui voudront participer là, à ce forum?
Alors bah déjà qu'ils viennent masquer, ça c'est la première des choses qu'on a mis sur la fiche, mais effectivement aujourd'hui je pense qu'on a tous ce réflexe-là. Et puis bien sûr c'est un événement qui est fait par la ville de Montigny-le-Bretonneux, et bien entendu on a de nombreuses réunions, il y a des protocoles qui sont mis en place, donc en temps réel quasiment, où effectivement on a été très très vigilant avec la ville de Montigny-le-Bretonneux à respecter toutes les règles les règles sanitaires notamment. Par exemple, effectivement, ce sera une première pour nous, c'est un forum où il n'y aura qu'un sens de circulation, hein, donc on ne pourra pas déambuler d'un stand à l'autre pendant ce forum, mais il y aura vraiment un sens de circulation avec des agents de sécurité, il y aura du gel bien sûr hydroalcoolique à disposition, enfin voilà, toutes les mesures seront respectées, il y aura des murs d'offres, mais là c'est pareil, on essaiera qu'il n'y ait pas d'attroupement, qu'il n'y ait pas de groupe constitué pour respecter les distanciations.
Et puis
gérer les flux si nécessaire, c'est-à-dire il y aura quelqu'un à l'entrée, quelqu'un à la sortie, et on pourra gérer les flux si on estime qu'il y a trop de monde à l'intérieur, bien sûr.
Les infos pratiques pour terminer, Laurence Cousin, donc c'est de 14h à 18h, c'est au gymnase Coubertin,
tout à
Montigny-le-Bretonneux. Alors
exactement.
C'est rue Charles-Linné, si je ne dis pas de bêtises.
C'est de rue Charles-Linné, exactement.
De rue Charles-Linné,
tout à fait.
Voilà, donc à Montigny-le-Bretonneux, vous avez des accès hein, par les bus notamment, je crois qu'il y a le 415.
C'est le 415 Parfait, vous avez tout retenu, c'est l'arrêt Les Blés d'Or, donc effectivement tout à fait accessible de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. On prend le bus et on arrive au gymnase. C'est l'endroit où il y a le forum des associations chaque année, donc c'est un gymnase qui est connu. Et pour ceux qui viennent en voiture, il y a un grand parking. Donc voilà, on a juste à croiser les doigts pour que les conditions sanitaires ne se dégradent pas et qu'on puisse mettre en place ce forum. Je vous dis, là, on a 45 stands, on attend les jeunes. Et c'est vrai que ces jeunes, eh bien, on sait que c'est les premiers en termes d'inégalité avec le confinement. Donc c'est les jeunes les plus fragiles qui ont été, qui sont en difficulté aujourd'hui. Et que je pense que toutes les communes, tous nos partenaires sont très soucieux de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions et de pouvoir leur proposer des solutions, bien entendu.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Yvelines Information Jeunesse, il y a un site internet, donc yij78.org, yij78.org. Merci beaucoup, Laurence Cousin.
C'est parfait, on a tout dit.
On a tout dit.
Donc... Et vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Hein. Le 30, on vous attend nombreux, le 30 septembre, donc au gymnase Pierre de Coubertin, à Montigny-le-Bretonneux.
Merci beaucoup, Laurence Cousin. Je rappelle que vous êtes directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 17h, passé de 20 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tiens, on va parler un petit peu de consommation responsable. Le bio, on en entend beaucoup parler du bio, mais il y a le bio industriel et le bio artisanal. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est Chloé qui nous explique.
Marmite FM présente la chronique consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler du bio. En effet, à l'heure où l'écologie est partout et indispensable, il faut revenir sur le sujet du bio car les produits bio sont maintenant présents partout dans les supermarchés. Et il est important de dire que toutes les filières bio ne se valent pas. En effet, lorsque le bio se définit comme un projet global, le bio-industriel tente de s'emparer du marché. Tout d'abord, qu'est-ce que le bio ? L'agriculture biologique est née d'une multitude d'initiatives. Agronomes, médecins, agriculteurs et consommateurs ont simultanément, dans les années 1920, et oui déjà, généré de nouveaux courants de pensée reposant sur des principes éthiques et écologiques. Ils ont initié un mode alternatif de production agricole privilégiant l'humus, l'autonomie et les équilibres naturels. L'agriculture biologique est avant tout un mode de production agricole spécifique, c'est-à-dire un ensemble de pratiques agricoles respectueuse des équilibres écologiques et de l'autonomie des agriculteurs. Elle s'appuie sur une observation soignée des cultures et des animaux, sur la mise en œuvre de techniques modernes et innovantes et sur une approche globale de l'activité agricole. L'agriculture biologique, c'est aussi un mouvement. C'est une réponse aux attentes de la société en matière de santé et d'environnement, une proposition de changement pour le reste de l'agriculture et enfin, la recherche d'une cohérence et d'un équilibre global de la parcelle cultivée jusqu'à la planète entière. Tout ceci est important à rappeler car, comme le dit Claude Gruffat, ancien président du réseau Biocoop, le modèle de la grande distribution est incompatible avec le bio. Et oui. Pourtant, le bio de la grande distribution détient 45% des parts de marché contre 37% pour les filières spécialisées, comme les différents magasins spécialisés dans le bio, et 18% pour les circuits courts, comme les AMAP et les ventes directes à la ferme. De plus en plus de voix s'élèvent chez les petits producteurs, militants et consommateurs pour dénoncer les industriels qui se lancent dans la vente de produits biologiques. Alors, vous allez me dire, on nous dit de manger bio, et puis là, on dit que non. Oui, mais en fait parce que les industriels se lancent dans la vente de produits biologiques au détriment des valeurs paysannes, qui sont le respect de la nature, la solidarité entre producteurs, l'autonomie alimentaire, la diversité des cultures et des élevages. Je vous explique. Les grandes enseignes de supermarchés revendiquent le fait de mettre à la portée de tous l'alimentation bio. Mais les professionnels engagés, en fait, critiquent le manque de cohérence entre le bio-industriel et ses critères sociaux et environnementaux. En effet, de nombreux produits bio dans les supermarchés proviennent de l'étranger et ont parfois dû effectuer quelques milliers de kilomètres en avion, ce qui n'est bien sûr pas cohérent sur un plan environnemental, mais aussi social, parce qu'en général, ils sont produits par des gens très peu payés à l'étranger. Le fait de proposer des produits bio qui ne sont pas de saison va également contre l'éthique. De plus, le label bio européen a assoupli ses critères depuis sa création en autorisant notamment 0,9% d'OGM dans les produits bio, des traitements médicamenteux et la mixité bio et non bio sur les mêmes exploitations. Si on s'en tient aux normes fixées par le cahier des charges européen, des projets de très grande envergure en bio, peu soucieux des normes environnementales et sociales, pourraient en effet voir le jour. Les défenseurs de l'agriculture paysanne et locale s'inquiètent ainsi de voir à terme les procédés de l'agriculture conventionnelle appliqués au bio, c'est-à-dire la mécanisation accrue de la production et la standardisation des produits. Les industriels n'ont que faire de la diversité du goût et de la production artisanale. Il est sûr que faire appel à des travailleurs à l'étranger permet de baisser le prix des produits bio. Mais dans ces conditions, on tord le concept de prix juste, ce qui est le principe du bio. Car le prix juste bio suit les principes en fait du commerce équitable et de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, décidés à réagir, les différents acteurs du bio se regroupent de plus en plus pour anticiper la concurrence des filières industrielles. Ils ont bien compris le risque de la pression sur les prix. Et dans ce cadre, la FNAB a décidé de renforcer les critères de la bio en créant un nouveau cahier des charges français « Biocohérence ». Qui s'ajoute à la réglementation européenne et renforce ses critères. Il garantit une nourriture 100% bio, culture et élevage confondus. Il interdit les OGM ainsi que l'élevage hors sol et privilégie la vente directe. Ce qui veut dire que la vigilance du consommateur est essentielle et il faut donc garder l'esprit critique lors de vos achats en choisissant des produits, comme je vous l'ai toujours dit, de saison, bio et locaux. Je vous laisse sur cette réflexion, soyez exigeants et actifs. Bon après-midi sur Marmite FM et à la semaine prochaine.
Il est 17h30, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, le flash d'actualité locale. Philippe Benassaya est arrivé en tête du premier tour des législatives partielles de la 11e circonscription des Yvelines dimanche dernier. Le maire Les Républicains de Bois d'Arcy obtient 36,65% des voix. Sandrine Grand-Gambe, qui représentait donc Génération, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, est en deuxième position avec 24,83% des voix. Les deux qualifiés se retrouveront donc dimanche prochain pour le second tour. À noter la très faible participation pour ce premier tour. Tour des législatives, seulement 16,60% des inscrits se sont exprimés pour ce premier tour. Les résultats complets, Pierre Luz, donc pour La République En Marche, obtient 15,42% des voix, Laurent Morin pour le Rassemblement National, 7,13%, Valérie Frobergie, PCF, La France Insoumise, 6,48%, Olivier Galland pour Debout la France, 3,57%, Jérémy Bizet pour France Écologie, 2,49%, Patrick Planck pour Lutte Ouvrière, 1,32%. Laurent Cocheton pour l'UPR, 1,20%. Enfin, Kamel Benmarouf pour La République par raison obtient 0,93% des voix. Un centre de dépistage Covid a ouvert ses portes à Trappes lundi matin. Il fait partie des 20 centres de dépistage lancés par l'Agence régionale de santé en Île-de-France. L'objectif, désengorger les laboratoires saturés par les demandes de tests Covid et réduire le délai d'obtention des résultats PCR. Le centre se trouve aux 4 allées Antoine de Saint-Exupéry à Trappes. Nous nous y sommes rendus lundi matin à l'ouverture. Reportage.
Alors Marion Sinali, je suis directrice de la délégation départementale des Yvelines pour l'ARS Île-de-France.
Mmh. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de la stratégie justement de l'ARS pour le dépistage et comment on en est venu à faire un centre de dépistage ici à Trappes ?
Alors la stratégie de l'ARS a été de pouvoir offrir au maximum des possibilités de dépistage pour l'ensemble de la population. Donc on a d'abord démarré fin mai en organisant des opérations, ce qu'on a appelé les opérations Barnum, c'était les opérations de dépistage sur les places des villes entre guillemets, pour que les gens puissent venir se dépister. Au départ, à la sortie du confinement, c'était surtout pour se rassurer sur la faible circulation du virus. Et puis plus l'été est arrivé, on a vu que la circulation du virus repartait. Et donc là l'idée c'était bien de à la fois identifier des clusters dormants et aussi venir en appui de l'offre de dépistage en ville puisqu'on savait que les labos étaient saturés. Et donc parce que les labos sont saturés, aujourd'hui le directeur général de l'ARS a décidé de lancer cet appel à manifestation d'intérêt pour créer 20 centres de dépistage en Île-de-France pour pouvoir vraiment essayer de donner de l'air aux labos de ville et qu'on puisse aussi du coup continuer à faire les autres actes de biologie qui aujourd'hui ont du mal à être assurés. Donc on a lancé ces 20 centres de dépistage. Ils commencent à être ouverts aujourd'hui. Il y en a eu 6 à Paris et 2 dans les Yvelines qui sont donc ouverts aujourd'hui à Mantes et à Trappes. Et puis les autres vont ouvrir progressivement. Il y en aura 2 par département. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir offrir là aux personnes qui sont prioritaires une possibilité de dépistage sans rendez-vous avec une capacité assez importante. On arrivera d'ici les 15 prochains jours à 500 tests par jour. Aujourd'hui, on démarre un peu plus progressivement, mais il faut que le labo puisse s'installer. Voilà, c'est ça. Et on démarre sur les 15 premiers jours juste pour les personnes prioritaires de 8h à 14h. Donc les personnes prioritaires, c'est les cas symptomatiques avec ordonnance. Les personnes qui sont cas contact à risque, qui ont été contactées par l'assurance maladie, qui ont un petit SMS, ou les professionnels de santé qui travaillent en établissement de santé, établissements sociaux, médico-sociaux. Et donc ça, on a pu le faire parce qu'on a l'appui des municipalités, on a l'appui de la mairie de Trappes qui nous a mis à disposition cette école, et puis le matériel, le mobilier, pour que le laboratoire puisse démarrer le plus vite possible.
Ali Rabé, maire de Trappes.
Moi, j'ai plus rien à dire.
Comment s'est fait la coopération justement avec l'ARS, et puis on pourrait se dire aussi pourquoi à Trappes, pourquoi un centre ici à Trappes.
La coopération entre la mairie et l'agence régionale de santé a commencé dès le lendemain de l'élection. Moi, j'ai appelé la directrice départementale pour organiser notamment une opération Barnum, comme il y en a eu tout au long de l'été. Et on a pu permettre aux Trappistes de se faire tester lors de 2 opérations au mois de juillet et au mois d'août. On a eu plusieurs centaines de Trappistes, et au-delà d'ailleurs de Trappes, qui sont venus se faire tester les jours de marché, le samedi. On a souhaité poursuivre notre collaboration. Et quand l'Agence régionale de santé a évoqué l'hypothèse de l'installation d'un centre de dépistage important pour le Sud-Yvelines, évidemment, Trapp était disponible et on a été réactif. On a travaillé très étroitement avec l'Agence régionale de santé et en grande confiance. C'est ce qui permet, dans une ville qui déjà accueille beaucoup de tests, hein, on a deux laboratoires à Trapp qui testent et qui sont saturés puisqu'ils font effectivement d'autres actes de biologie, pas uniquement les tests PCR Covid, mais les files d'attente s'allongent dès 7h du matin. Pour moi, c'était une urgence de permettre au public trappiste, mais pas que, 50 ans Yvelines et au-delà jusqu'à Rambouillet, de bénéficier de conditions pour faire les tests qui soient convenables. Pas normal de devoir faire la queue pendant 3 à 4 heures. C'est pas normal de devoir s'arrêter, attendre pendant une semaine un rendez-vous au laboratoire ou chez le médecin, une semaine de plus pour avoir les résultats. Donc les efforts faits par l'Agence régionale de santé ont permis qu'on s'installe ici à Trapp avec une capacité de test considérable qui atteindra dans 15 jours sa vitesse de croisière et qui permettra de soulager les laboratoires de Trapp et des environs et surtout d'apporter une réponse rapide, réactive aux patients. C'est quand même compliqué d'être contraint à rester chez soi pendant 15 jours. Pas forcément parce qu'on est malade, mais parce qu'on n'a pas le résultat qui nous permet de retourner soit au travail, soit à l'école pour les enfants. Donc ce centre n'était vraiment pas du luxe et à Trapp en particulier, on en avait particulièrement besoin.
Pour terminer, quel message on peut donner peut-être aux habitantes, aux habitants, aux trappistes? Parce que il y en a beaucoup qui nous ont sollicité pour nous dire est-ce qu'ils devaient se faire tester, même s'ils n'étaient pas symptomatiques. Voilà, quel message on peut leur donner? Est-ce qu'il faut vraiment laisser le centre de dépistage des laboratoires aux personnes qui ont une ordonnance ou en tout cas qui sont prioritaires? Et puis après, les autres, voilà, leur dire tout simplement d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux trappistes à ce niveau-là?
Moi, si j'ai deux mots, la première chose, c'est qu'il faut à tout prix respecter dans toutes les manifestations publiques, y compris en famille, les gestes barrières, les distances de sécurité, le port du masque, le lavage systématique des mains. Ce sont des évidences qui nous permettent de ne pas avoir à nous faire tester, parce qu'on ne devient pas de fait qu'à contact. Le second élément, mais Marion Sinali le dira mieux que moi, c'est qu'il est nécessaire de laisser la priorité à ceux qui sont orientés par leur médecin, orientés par l'assurance maladie, parce qu'ils sont eux-mêmes porteurs ou symptomatiques, ou parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus. Il n'est pas nécessaire d'engorger les laboratoires ou les centres de dépistage. C'est vraiment important de passer par la chaîne du soin. Les médecins libéraux sont évidemment la première entrée. Respectons tous ces règles élémentaires et tout ira pour le mieux dans les prochains mois.
Ah, tout a été dit.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, donc ce centre de dépistage est ouvert 6 jours sur 7 de 8h à 14h sans rendez-vous, mais attention, avec ordonnance, il faut absolument être prioritaire pour pouvoir obtenir un test PCR. Le centre devrait être ouvert jusqu'à la fin de l'hiver. Je rappelle l'adresse, le 4 allée de Saint-Exupéry, donc c'est l'ancienne école Saint-Exupéry. Pour terminer, Saint-Quentin en Yvelines lance une vaste opération digitale de recrutement pour les jeunes jusqu'au 25 septembre. Les chefs d'entreprise, les commerçants et les recruteurs sont invités à participer au premier e-job dating pour les jeunes qui se tiendra du 13 au 15 octobre prochain. L'occasion pour les recruteurs d'accéder à un stand virtuel pour présenter leur entreprise, à une CV Tech et d'organiser des entretiens de recrutement en ligne. Plus d'informations sur le site sqi.fr, sqi.fr. Je répète, sqi.fr. Il est 17h passé 38 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Romane Juillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice pour le développement de projets sociaux pour l'association Couleurs d'Avenir. Et vous êtes avec nous pour nous présenter le rallye Intersquare qui aura lieu le 30 septembre prochain, le mercredi 30 septembre prochain, à Trapp, rallye Cité Citoyen. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter l'association Couleurs d'Avenir en quelques mots? Vous intervenez depuis un certain temps à Trapp déjà.
Oui, alors Couleurs d'Avenir, nous sommes une association spécialisée dans le développement social et urbain. Nous intervenons à Trapp depuis plusieurs années sur la création de dynamiques collectives au sein de quartiers d'habitat social à travers donc des démarches de sensibilisation au cadre de vie, au vivre ensemble et à la création de liens sociaux entre les habitants, mais aussi avec les bailleurs sociaux et les structures locales. Donc notre rôle là dans ce rallye Intersquare, c'est de coordonner l'organisation de cet événement qui fera intervenir les acteurs locaux de Trappe.
Mmh. Bah justement, qu'est-ce que c'est un rallye intersquare ?
Alors c'est un événement qui a vocation à rassembler plusieurs quartiers de Trappe, mais c'est aussi donc un événement interpartenarial. On a notamment 7 bailleurs sociaux qui interviennent financièrement et dans la logistique aussi de ce rallye. Les associations locales aussi se mobilisent pour l'organisation de cet événement, la ville ainsi que les centres sociaux. L'objectif, c'est de favoriser la rencontre entre habitants venant de squares différents, et puis d'impulser des échanges avec les équipes de proximité, des bailleurs sociaux, les structures et les structures locales qui interviennent sur ces quartiers. Voilà. Donc concrètement, l'événement se présente sous la forme d'un parcours pédestre à travers les squares des quartiers des Merisiers et de la plaine de Naufle. Un parcours qui est ponctué de 9 stands thématiques liés au cadre de vie, au vivre ensemble, donc sensibilisation aux éco-gestes, au tri des déchets, aux missions des gardiens, voilà, toutes ces thématiques sur le cadre de vie.
Voilà, c'est un jeu en fait, hein, ce parcours pédestre, c'est sous forme de jeu, c'est ça ?
Tout à fait, oui, c'est un événement ludique. Par équipe qui pourront parcourir les stands sur toute l'après-midi.
Alors comment participer, Romain Juillet, pardon, à ce rallye intersquare ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'on peut venir spontanément se présenter ?
Alors on n'a pas d'inscription préalable. Le but, c'est que chacun puisse venir. Donc on ouvre les stands d'accueil dès 14h. On aura 2 stands d'accueil. L'un qui sera sur le quartier des Merisiers, aux 4 squares de la commune de Paris, et le deuxième sur le quartier de la plaine de Naufle, place de la médiathèque. Donc à partir de 14h, les participants pourront venir s'inscrire par équipe de 4 à 5 personnes. On sera vigilant à ce qu'il y ait un adulte dans chaque équipe. Voilà, donc les participants peuvent venir avec une équipe déjà formée ou bien individuellement, et on veillera à former des équipes sur place. Mais voilà, pas d'inscription au préalable. Et puis chacun partira ensuite réaliser le parcours avec un petit carnet de route et le plan des quartiers pour se repérer et voilà, profiter de l'après-midi de façon conviviale.
Alors de 14h à 17h, c'est le jeu, hein, avec ce parcours pédestre. Et puis après, à 17h, il y a un petit moment convivial entre les deux quartiers, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc à 17h, tous les participants seront invités à se réunir au parc de la Plaine de Naufle pour un moment convivial autour d'un goûter, d'une évaluation collective aussi de cet événement. On aura des jeux en bois mis à disposition, voilà, de façon à terminer la journée de façon sympa avant de se quitter à 18h.
Merci en tout cas, Romane Juillet, d'être intervenu pour nous présenter ce rallye intersquare Cité Citoyen. Je rappelle que vous avez de plus amples informations sur le rallye sur le site de la mairie de Trappe, donc trappe.fr. Vous pouvez également aller sur le site trappemag.fr à la rubrique rallye intersquare. Merci beaucoup, Romane Juillet.
Merci à vous.
17h passé de 43 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, on va respirer un petit peu en musique et on retrouve Pierre Joanet de l'UFC Que Choisir juste après la musique. A tout de suite.
Carimouche sur Marmite FM.
Face à un mur blanc, l'inspiration m'a lâché. Face à mes cahiers, tout neuf flambant. Toutes les nuits, je reste éveillée. Sur la touche, couchée sur un banc. J'affiche sur ma face un air fâché. Je suis un des trois condamnés au carcan. Même mon stylo ne sait plus valser. J'accouche des idées maigres en suffoquant. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce que je suis devenue? Mmh. je fais le hibou en baillant. Même ma bonne fait mal lâcher, ma douce réalité fout le camp. Une fâcheuse tendance en mêlée maintenant et lendemain. Chercher mes clés pendant des heures et les retrouver dans ma main. J'hallucine, j'hallucine, je pose pas le pied. Je peux mourir maintenant et rêver à demain. Envie de décrocher, ne plus rien peser, perdre ma gravité. Quitte à manquer d'air, j'ai la tête dans la lune et n'est jamais revenue. J'ai la tête dans la lune et n'est jamais revenue. Qu'est-ce que je suis devenue? Replié sur moi-même, plus des pannes de circuit. Mon cerveau me malmène à guetter très de génie. Ah, si j'étais magicienne, sûre, je dormirais plus la nuit. J'écrirais des tubes et je stopperais les tsunamis. La fatigue, je remarque, me marque au-delà des cernes. Mon visage devient difforme, alors j'éteins ma lanterne. Il faudrait que je m'endorme, que je parte en holiday. Faut que je m'y fasse, j'aurai jamais le succès de génialité. J'ai la tête dans la lune, elle n'est jamais revenue. Dans la lune, elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce que je suis devenue?
Carimouche sur les ondes de Marmite FM 88.4. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, la minute conso de Pierre Joanet. La minute consommateur avec Pierre Joanet.
À la une de l'actualité depuis plusieurs semaines, le coronavirus fait l'objet d'arnaques sur Internet mais aussi à domicile. La situation liée à la propagation de ce virus évolue très rapidement. Les mesures de confinement annoncées par le président de la République en attestent. Les escrocs qui suivent l'actualité comme le lait sur le feu s'adaptent au jour le jour. Si la vente en ligne de masques périmés à des prix abusifs ou inefficaces s'est résorbée ces derniers jours, elle continue de sévir sur certains sites. Dans le pire des cas, vous ne recevez rien. Dans le meilleur, vous réceptionnez un produit qui ne correspond en rien à sa présentation en ligne. Et dans tous les cas, vous serez débité et non remboursé. Méfiez-vous aussi des annonces entre particuliers et gardez en tête que tous les masques ont été réquisitionnés par l'État. En effet, la vente de modèles FFP2 avec valve ou anti-projection chirurgicaux en France est interdite. Leur diffusion doit faire l'objet d'une ordonnance. Les exemplaires que vous trouverez sur Internet, si toutefois vous les recevez, risquent de ne pas être efficaces. Même les pharmaciens ont été victimes d'escrocs qui ont usurpé l'identité d'une officine pour proposer masques et solutions hydroalcooliques selon l'Ordre national des pharmaciens. Autre source d'arnaque éventuelle, les gels hydroalcooliques, dont les prix ont été encadrés par le décret du 5 mars 2020 à la suite d'abus constatés. Tarif fixé de 15 à 40 euros par litre en fonction de la contenance du flacon. Méfiance tout de même, des produits à des prix bien au-dessus de la réglementation circulent encore sur Internet. Des tentatives de phishing sont également à l'œuvre via les boîtes mail, notamment un message indiquant qu'un vaccin a été découvert, mais que seules quelques personnes méritantes peuvent en bénéficier, le gouvernement ne souhaitant pas le rendre public. L'objectif, vous faire payer pour obtenir cet antidote que vous ne recevrez jamais. Certaines personnes malveillantes ont aussi profité de la crise sanitaire pour mettre en place des escroqueries à domicile. Sur les réseaux sociaux, les alertes s'accumulent. La gendarmerie lance de son côté une alerte contre des démarcheurs prétendus employés communaux proposant de désinfecter votre habitation suite à l'épidémie de coronavirus. Il s'agit de cambrioleurs qu'il ne faut surtout pas laisser rentrer chez soi. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a lancé un plan de lutte contre ces agissements. Elle procède à des contrôles de prix sur les gels hydroalcooliques et enquête sur des sites frauduleux pour traquer les remèdes miracles ou produits dangereux. Elle invite tous les consommateurs ayant repéré une fraude à la signaler sur Signal Conso. Afin de prévenir toute arnaque, restez vigilant lorsque vous recevez des informations liées au coronavirus. Les produits miracles n'existent pas, pas plus qu'un vaccin. Fiez-vous aux informations officielles. En cas de doute, un numéro vert a été mis en place pour répondre aux questions. Le 0800 130 000.
Merci beaucoup Pierre, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés sur le 88.4 Marmite FM, bien sûr. Je rappelle que cette émission est rediffusée de 17h à 18h le vendredi et également le samedi matin de 12h à 13h. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h, pour un nouveau direct. Merci à tous.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.